nous avons le plaisir de recevoir à Station Ozone ce soir Jean-Pierre Chevènement, qui publie aux éditions Robert Laffont, dans la collection Bouquins, la prestigieuse collection Bouquins, un livre qui fait 1532 pages, et qui, il faut bien le dire, est une somme. Et dès les premières lignes de la préface de votre livre, cher Jean-Pierre Chevènement, vous écrivez « J'ai entrepris de présenter au lecteur les moments forts de mon expression, tels que je les discerne, tout au long d'un demi-siècle de vie politique où j'ai mêlé étroitement la réflexion et l'action. » Alors, il y a 16 parties dans ce livre. Alors, ça peut paraître peut-être un peu fastidieux ce que je vais faire, mais je vais donner les titres de ces 16 parties parce que, quelque part, c'est une longue phrase qui résume en quelque sorte votre œuvre intellectuelle et politique. Figure tutélaire et récit national, engagement de jeunesse, les impasses de la gauche, la République et la nation, on y reviendra, évidemment, l'État républicain et le citoyen, du fordisme au capitalisme financier mondialisé, le rôle de l'État stratège industriel, transmettre la fin du communisme et le renversement du monde, la guerre du Golfe, mère de toutes les batailles, l'État stratège et la défense de la France, l'Empire américain et nous, de l'atlantisme à l'occidentalisme, chaos mondial et islamisme radical, la montée des émergents et de la Chine, question pour la 14e partie, l'Europe peut-elle être redressée, France-Allemagne, deux nations en miroir, et enfin, l'Europe de l'Atlantique, non pas à l'Oural, comme dirait le général de Gaulle, mais de l'Atlantique à la Russie. Vous écrivez encore, et je vous recite, « J'ai retenu les concepts qui donnent sens à mon engagement, la nation et la République, l'État et le citoyen, etc., et qui constituent un patriotisme républicain, seul rempart efficace à mes yeux contre les régressions identitaires toujours possibles. » Fin de citation. Dans la préface, page 8, vous écrivez « On ne naît pas impunément en 1939 ». Vous êtes né en effet le 9 mars 1939 à Belfort, parent instituteur, dites-vous, et vous poursuivez. Et vous poursuivez. Il me semble que j'ai ressenti tout petit la brûlure d'une défaite sans précédent. Faites évidemment référence à la débâcle de juin 40. Il me semble que j'ai ressenti tout petit la brûlure d'une défaite sans précédent dans l'histoire de notre pays. J'ai vécu sa passion, et vous mettez le mot passion entre guillemets, et vous accompagnez ce dernier mot d'une note de bas de page dans lequel vous donnez l'étymologie du mot passion qui vient du verbe latin patere, souffrir. La première question que j'ai envie de vous poser, Jean-Pierre Chevènement, est celle-ci. On vous savait miraculé de la République, mais de là à ce que vous évoquiez cette dimension christique qui est celle de la passion, c'est une surprise, d'autant qu'il y a deux sens au mot passion, celui que vous employez dans votre titre « Passion de la France » et la passion au sens de la souffrance suprême, presque l'agonie. Et je voulais vous demander, est-ce que votre passion pour la France vous a fait souffrir ?
Non, je voudrais vous rappeler que la passion christique débouche sur la résurrection. Donc, mon propos n'est pas forcément pessimiste. Né en 1939, je n'ai pratiquement pas connu mon père, car il a été fait prisonnier. En tout cas, je ne l'ai pas connu avant l'âge de 6 ans. J'ai été élevé par ma mère, seule, institutrice, dans une petite école, que, à l'occasion, les Allemands occupaient, enfin, ils occupaient l'étage, et nous reléguaient, ma mère et moi, au rez-de-chaussée. Donc, j'ai vu de près les occupants. J'ajoute que les trois maisons de ma grand-mère avaient été incendiées le 18 juin 1940, au lendemain de la demande de Pétain des conditions de l'armistice. Les soldats français avaient résisté, tirant sur les motocyclistes allemands, en avaient tué plusieurs, et les Allemands avaient riposté avec leurs canons en détruisant les maisons qui étaient à l'entrée du village. Cette question divisait ma famille, ou plus exactement une branche de ma famille, qui pensait que le 18 juin, c'était trop tard pour résister, puisque Pétain avait déjà parlé, et le reste de ma famille, dont ma mère et ma grand-mère, pensaient qu'ils avaient très bien fait. Mais j'évoque cette période de ma vie parce que effectivement, on est très sensible au fait que le pays est occupé. On voit passer sur la grande route qui va de Montbéliard à Pontarlier des colonnes de camions, de chars, de auto-mitrailleuses. Et on n'aimait pas les Allemands, il faut bien le dire. Hein, on n'aimait pas les Allemands. Ma mère a été suspecté d'avoir rédigé des tracts avec la postière, convoqué par la Gestapo à Montbéliard. Donc c'était une ambiance très particulière. En plus, ma mère en voulait beaucoup aux Allemands parce qu'elle retenait mon père en captivité. Donc elle a quand même attendu toutes ces années-là. Alors moi-même, je partageais forcément ces sentiments. Hein. Je les nuançais quelque peu car ma mère m'avait interdit de monter à l'étage, car m'avait-elle dit, si les Allemands te donnent, elle disait pas les Allemands, elle disait si les Boches te donnent des bonbons, ce sont des bonbons empoisonnés. Je suis monté, et les Allemands m'ont donné des oranges, parce qu'ils étaient en Tunisie à l'époque, donc on leur donnait des oranges. J'ai donc mangé le fruit défendu, et il n'en a rien résulté, ce qui fait que j'ai un peu nuancé l'anti-germanisme primaire de ma mère. Il se comprenait parfaitement. Et que moi-même, mon cousin, qui organisait les jeux des enfants du village, partageait. Mais quand je dis que, naturellement, j'ai été marqué par ces années, c'est que j'ai quand même senti l'abaissement de la France. J'ai senti ce que ça signifiait que la défaite, une armée entière faite prisonnière, et j'ai senti que, finalement, la France était très vulnérable. Et j'ai senti ça très tôt, et je pense que ça a marqué la suite, et y compris mon engagement politique, parce que je voulais aider à la relever. Je ne me faisais aucune idée claire de la manière dont ça pouvait se passer, mais je pensais qu'il fallait aider la France à se relever, et je ne me doutais pas que ça prendrait beaucoup plus que la durée de la vie d'un homme. Parce que c'est une tâche qui reste très largement devant nous. Si je vous dis tout ça, c'est que naturellement, je commence le livre par figure tutélaire et récit national, voilà, comme vous l'avez rappelé, cher monsieur. Ça s'organise en deux temps. Il y a la centralité de la Révolution française, hein, le rôle que jouent Michelet, Jaurès, son histoire socialiste de la Révolution, dans l'organisation de ma pensée sur cet événement majeur qui fait, comme disait Michelet, descendre le ciel sur la terre. On passe du droit divin au droit de l'homme et du citoyen et à la souveraineté populaire. Donc, pour moi, c'est l'événement central de notre histoire. Non pas qu'il n'existe rien avant, bien sûr que si. Il y a eu les rois qui ont fait la France. Notre pays a une histoire millénaire. Mais la Révolution française, c'est le début de la nation citoyenne, de la nation républicaine, de la nation définie, non pas de manière ethnique ou ethnoculturelle, mais comme communauté de citoyens, quelles que soient les origines, la religion, les opinions, etc. Donc c'est cette idée de la nation que d'ailleurs ma mère m'enseignait, car c'était une institutrice laïque, elle allait à la messe le dimanche matin, rassurez-vous, mais l'après-midi, souvent, elle faisait signer les pétitions du CNAL, Comité National d'Action Laïque, parce qu'elle était très laïque. Elle séparait les choses. D'un côté, la religion, hein, dont elle parlait peu, d'ailleurs. Et puis, elle avait cette foi laïque qui était celle des anciens instituteurs. Donc, ma mère et mon père, quand il est revenu de captivité, étaient des instituteurs dont les opinions étaient plutôt à gauche, enfin, ça ne voulait pas dire grand-chose, parce que nous étions dans cette partie de la France, tout à fait à l'Est, où on est très spontanément patriote, mais on votait socialiste, ou on votait à gauche, c'est-à-dire pour des gens qui étaient peut-être des radicaux, ou des gens qui se disaient à gauche. Il n'y avait pas de communistes, parce que dans le Haut-Doubs, il n'y a pas de communistes, ça n'existe pas, on ne sait même pas ce que c'est. Hein. Donc, voilà. c'était un peu l'ambiance de...
On va venir aux figures tutélaires hein, dans un instant, mais je voulais rester un peu sur l'économie générale de votre travail, dont je dis que c'est vraiment quelque chose de passionnant, parce que c'est tout à fait, je dirais, inusité même, d'avoir un homme politique qui a autant, comme vous le dites très bien, mêlé l'observation, l'action et la réflexion sur le temps long, puisqu'on parle d'histoire. Dans les 16 parties, le mot qui revient, je n'ai pas fait une analyse lexicologique très compliquée, c'est facile à faire, le mot qui revient à 3 reprises, c'est l'État. À 2 reprises, parmi ces 3, il est associé au mot stratège. Soit pour le domaine industriel, soit pour celui de la défense. C'est d'ailleurs 2 portefeuilles ministériels que vous avez occupés, le premier du 22 mai 81 au 23 mars 83, le second du 12 mai 88 au 29 janvier 91. Quelle est votre définition de l'État et pourquoi l'avoir associé au mot stratège, avec l'étymologie grecque du mot stratège, le général qui conduit la troupe?
Parce que l'État a quelque chose à voir avec le long terme. Pour être très simple et clair, je ne crois pas que le marché se régule par lui-même. Je ne crois pas à la main invisible du marché que décrivait Adam Smith. Je ne pense pas qu'il y a un équilibre naturel des intérêts qui s'établit de soi-même. Je pense que il n'en va malheureusement pas ainsi. Souvent, on pourrait parler de la loi de la jungle. Hein, l'homme est souvent un loup pour l'homme. Et je pense qu'il est nécessaire, pour la liberté, qu'il existe un État capable de faire respecter la loi.
L'amener. Hein, entre le fort et le faible, c'est la loi qui protège et la liberté qui opprime.
Exactement. Donc, je pense que on a besoin d'un État républicain qui soit l'émanation des citoyens, mais on a besoin de cet État. Et on en a besoin, y compris pour prévoir le long terme, que ce soit en matière industrielle. Il y a des industries qui se bâtissent sur 50 ou 100 ans, par exemple l'aéronautique, qui a commencé avant même la guerre de 1914. Et Airbus, tout ça, ce sont des créations de l'État. Et puis, dans le domaine de la défense, bien évidemment, il faut planifier notre défense, bien ou mal. La ligne Maginot n'était peut-être pas une très bonne idée. Mais la dissuasion nucléaire, quand on remonte à ses origines, on s'aperçoit qu'il y avait quand même de grands physiciens français avant la guerre de 1939-40.
De gauche.
Qui étaient souvent de gauche, pas toujours, mais souvent. Hein. Il y avait aussi des immigrés allemands ou polonais qui travaillaient dans les laboratoires du Collège de France. Et nous avions une tradition. Je ne veux pas revenir à Becquerel, à Pierre et Marie Curie, etc. Mais il y avait des scientifiques. Et ils ont tout fait pendant la guerre pour que la France reste dans la course. Partageant ses recherches avec l'Angleterre, on avait enlevé les stocks d'eau lourde en Norvège, on les avait envoyés en Angleterre avant l'effondrement de juin 40, et beaucoup de nos scientifiques étaient allés également aux États-Unis. Ils travaillaient non pas aux États-Unis, parce que les États-Unis se méfiaient énormément, mais travaillaient au Canada avec les Britanniques. Ce qui fait qu'à la Libération, nous avons quand même pu disposer assez facilement du potentiel scientifique qui nous a permis de lancer le programme nucléaire sous la 4e République, ce qu'on ignore. Parce que De Gaulle, même si ses mérites sont évidents, mais De Gaulle n'a pas eu grand-chose à faire parce que tout s'était fait dans les laboratoires du CEA pendant la 4e République, à l'instigation de personnes gaullistes souvent, mais aussi d'hommes politiques de gauche, Madès France, Guy Mollet, pour que la France puisse disposer d'une dissuasion nucléaire. Et quand, en 1960, De Gaulle a lancé une opération qui s'appelait Gerboise, eh bien, il n'a eu qu'à appuyer sur le bouton, si je puis dire. Le travail avait été fait. Donc, tout ça, ça se planifie. Ça se planifie à long terme, les sous-marins nucléaires, leurs différentes générations, les missiles, tout ça. Bon, je ne vais pas vous embarquer dans la stratégie, mais disons que ça requiert le temps long. Et si on veut avoir une industrie performante, si on veut avoir une défense qui soit à la hauteur des défis dont le monde futur est malheureusement gros, eh bien, on a intérêt à y réfléchir longtemps à l'avance. C'est le rôle et la place de l'État, mais je n'aimerais pas qu'on réduise l'État à cette dimension régalienne seulement stratégique. Hein. L'État est aussi là pour faire respecter les droits des citoyens, pour garantir leur sécurité et le libre exercice de leur liberté.
Alors, dans les figures tutélaires, vous en disiez quelques mots, c'est la première partie, c'est un peu vos lieux de mémoire à vous, hein. C'est très très bien écrit. Alors, c'est encore une fois, c'est une somme de chapitres ou de textes ou de conférences qui ont été prononcées tout au long de la carrière de Jean-Pierre Chevènement. Alors, on retrouve Michelet, vous disiez, Jaurès, Clémenceau, Zola, De Gaulle, Mendès, Mitterrand, puis des événements, 1914, dont vous dites joliment que c'est la matrice et l'énigme de notre histoire, le traité de Versailles, 100 ans, hein, 28 juin 2019. Et je voudrais vous faire parler de deux personnes. La première est très peu connue, l'autre extrêmement connue. La première, c'est qui est la question est la suivante, qui était Claude Nicollet et pourquoi parlez-vous à son sujet de foi républicaine? Son nom est associé à Pierre Mendès France, mais pas seulement, et le texte que vous publiez est l'hommage que vous lui avez rendu le 28 mai 2011. Vous pouvez nous parler de Claude Nicollet?
Alors Claude Nicollet a été un de mes amis, c'était également un des amis de Pierre Mendès France. Il était le, comment dirais-je, rédacteur en chef des Cahiers de la République, qui était la revue de Pierre Mendès France. C'était donc un homme de gauche, pas un socialiste, hein, je tiens à le préciser. C'était un radical, c'était un républicain à l'ancienne mode, mais comme c'était un historien, un philosophe, que son vrai métier était les inscriptions latines ou grecques qu'il déchiffrait. Il a d'ailleurs été directeur de l'école de Rome, hein, qui occupe le dernier étage du palais Farnèse, notre ambassade à Rome. Claude Nicollet était donc un très grand savant. Il me disait, mais oui, je suis un cuistre, hein, je ne sais pas m'exprimer. Effectivement, la seule fois où il a été candidat, il a été battu à plate couture, ça devait être en 1956. Enfin, je n'en suis pas tout à fait sûr. Donc, il se trouve que Claude Nicollet est devenu un de mes collaborateurs rapprochés.
Ah oui.
En 1981-82,
d'accord.
Et je lui ai confié plusieurs missions à l'éducation nationale, de réfléchir sur l'éducation civique.
Ça passait de 84.
Alors ça, c'était 84. Mm-hmm. Et je l'ai également employé au ministère de la Défense pour
la période au moment du bicentenaire.
Alors non, je ne l'avais pas tellement associé au bicentenaire. C'est un autre historien que j'avais mis à contribution, et beaucoup d'autres d'ailleurs, Michel Vauvel. Mais je lui ai confié différentes missions sur l'instruction civique dans les armées. C'était toujours le même dada. Et puis, quand j'ai été ministre de l'Intérieur, je lui ai demandé de rédiger le livret du citoyen qui a été distribué à tous les jeunes inscrits d'office sur les listes électorales, c'est-à-dire 800 000 par an,
à 18 ans
à peu près, hein, pour leur expliquer ce qu'étaient les devoirs et les droits du citoyen. Donc c'est un court texte qui fait quelques pages, deux ou trois, pas plus, mais c'est écrit dans une très belle langue, un français châtié, et c'était destiné à donner une conscience civique aux citoyens, parce que je suis passé un petit peu vite sur l'État. L'État républicain, c'est l'État des citoyens. Je dirais, c'est l'État qui permet à la volonté générale de s'exprimer, car le titulaire de la souveraineté n'est plus le bon Dieu. Depuis 1789, c'est le peuple. Et le peuple est composé de citoyens. Chaque citoyen est une parcelle du souverain, puisque le peuple est souverain. Chaque citoyen, à sa manière, est une parcelle de la souveraineté. Et pour l'exercer, doit faire appel à la raison naturelle. Hein, la citoyenneté va avec le siècle des Lumières, l'idéologie des Lumières, et on comprend très bien qu'il faille éduquer le citoyen, c'est le rôle de l'école républicaine. Vous voyez, tout ça tourne en boucle. Donc le fils d'instituteur républicain que j'étais était parfaitement à son aise pour définir ce qu'était l'État républicain, l'État des citoyens, ce qu'était le citoyen, et naturellement le fait que la citoyenneté se définissait par l'exercice de la souveraineté, l'exercice de la liberté en commun, et non pas à partir d'une origine ethnique, religieuse,
que ce genre. Claude Nicollet, quand vous dites qu'il a la foi républicaine, il est exactement dans cette perspective-là. Enfin, c'est tout à fait sa vision.
Il connaît très très bien l'histoire de la Révolution. C'est lui qui m'a initié à l'univers des idéologues, des études Tracy, Volney, tous ces gens-là, qui ont préparé, je dirais, l'éclosion des penseurs qui ont été les créateurs de la Troisième République. Parce que l'idée républicaine a un petit peu erré. Par exemple, l'idée de la laïcité ne s'est vraiment cristallisée qu'à la fin du 19e siècle, avec l'école laïque, mais surtout avec la loi de séparation des Églises et de l'État.
À propos de l'islam.
C'est-à-dire qu'au départ, les gens qui ont fait la révolution de 89 veulent imposer au clergé de prêter serment à la constitution. C'est ce qu'on appelle la constitution civile du clergé. Alors il y a les prêtres jureurs
et les
il y a ceux qui refusent de jurer,
réfractaires,
qu'on appelle réfractaires, et c'est une des origines de la guerre de Vendée.
Tout à fait.
Ensuite, Robespierre, qui est un disciple de Rousseau, qui croit en l'être suprême, la formule est de Rousseau, se dit: pour faire de bons citoyens, il faut quand même avoir foi dans une réalité qui nous dépasse. Donc, on va instaurer le culte de l'être suprême. Il se fout à tous les autres conventionnels, ou presque tous, qui sont des disciples de Voltaire, ou bien des encyclopédistes, Diderot,
D'Alembert,
d'autres encore, ou des francs matérialistes comme Dolbach. Tout cela considère que l'être suprême, selon Rousseau, tout ça c'est de la foutaise, et que Robespierre, en voulant instaurer le culte d'être suprême, dissimule en réalité son ambition de devenir une sorte de grand prêtre de la République, pas seulement le président du comité de salut public, mais qu'il a une espèce de d'arrière-pensée cléricale. Trois semaines après, c'est le 9 Thermidor, et Robespierre va se faire guillotiner. Je n'établis pas un lien de cause à effet, parce que les causes du 9 Thermidor sont un peu plus complexes. Mais rappelez-vous quand même que le gouvernement de Robespierre avait remporté une victoire remarquable à Fleurus, quelques semaines avant que Robespierre périsse sur l'échafaud. C'est assez rare qu'un gouvernement victorieux soit mis en minorité et que son chef refuse d'appeler à l'insurrection la Commune de Paris parce qu'il ne veut pas enfreindre la légitimité dont il procède. Je ne dis pas ça pour réparer en quelque sorte les oublis qui concernent Robespierre, mais Robespierre n'était pas forcément le monstre qu'on nous décrit. Il y a une petite histoire que je ne résiste pas au plaisir de vous raconter. Quand Paul Valéry, à la main de sa maman, allait voir une amie dans l'antichambre de laquelle il y avait le portrait de Robespierre, de Saint-Just et de Couthon, elle disait à son amie: « Mais comment peux-tu afficher ces monstres ?» Et son amie lui répondait: « Tais-toi, c'était des saints !» Alors vous voyez que la France était déjà très divisée, puisque même dans la bonne bourgeoisie, deux amis pouvaient avoir des avis très tranchés.
Alors,
quelqu'un qui n'était pas les mêmes.
Quelqu'un qui, dans certains milieux, a pu paraître pour un monstre, c'est évidemment un deuxième personnage dont je voulais vous faire parler, c'est François Mitterrand. Évidemment, lui, beaucoup plus connu. Le chapitre 9, donc, des figures tutélaires que vous lui consacrez, est intitulé « François Mitterrand, deux points, il était, point de suspension ». J'ai retrouvé votre malice. Et cet extrait, donc, c'est un texte extrait de Défi républicain publié en 2004. Et vous complétez très vite dans ce texte les points de suspension. Ce n'était pas seulement un esthète, dites-vous, un charmeur, un homme curieux de tout. C'était d'abord un homme de conception, d'action et de décision. Je l'entendis bougonner un jour en plein Conseil des ministres. Vous savez qu'on n'a pas le droit de répéter ce qui se passe en Conseil des ministres, Je l'entendis bougonner un jour en plein Conseil des ministres. Deux points, on m'accuse d'être un hédoniste. Mais ma vie, du matin au soir, n'est faite que de devoirs. Je suis comme une bête attachée à la charrue. Fin de citation. Vous dites de lui, une phrase, ça c'est vraiment du Jean-Pierre Chevènement, vous dites de lui, jeune homme chrétien, il avait gardé avec la vérité des rapports complexes. Ça m'a fait beaucoup rire, cette phrase. Est-ce pour cela qu'il a été un très grand politique ?
D'abord, je voudrais vous rappeler que « il était », titre du chapitre que je lui consacre, se termine de la manière suivante. « De tout homme politique, je juge sur ce qu'il fait. » Et je dis « il a été ce qu'il a fait ». Il n'y a que de François Mitterrand, dont je ne peux pas le dire. De François Mitterrand, je me contente de dire « il était ». Parce que, il faut bien le dire, je n'ai pas toujours été d'accord avec François Mitterrand. Sur ce qu'on appelait la parenthèse libérale, qui nous a orientés vers un certain néolibéralisme, sur la manière de concevoir l'Europe comme une sorte de d'au-delà des nations, identifiée au bien, les nations étant en quelque sorte reléguées à une sorte de malédiction, hein, par des jugements rapides et à mon avis injustes. Ben, ce ne sont pas les nations qui se sont déclarées la guerre. Généralement, les gens qui recevaient leur fascicule de mobilisation, ben, ils sont allés là où on leur a dit qu'était leur affectation. Hein. Par contre, les décideurs, eux, ne doivent pas être mis hors de cause. Et je pointe dans l'analyse des responsabilités de la guerre de 1914 un certain nombre de grands décideurs qui sont à l'origine de cette guerre, qui est, comme vous l'avez rappelé, hein, la matrice de notre histoire contemporaine, parce que le coût humain que nous avons payé, 1,5 million de morts, hein, 3 millions de blessés, handicapés, mutilés, autant de veuves et d'orphelins, ce coût humain exorbitant payé par un pays qui était déjà atteint dans sa substance vive par une faible natalité, la France n'avait que 40 millions d'habitants pratiquement du Second Empire jusqu'à, on peut dire jusqu'à 1945, hein.
Oui.
C'est une longue période. Par rapport à d'autres pays, notamment l'Allemagne, hein, qui avait 65 millions d'habitants en 1914 et qui en avait 80 en 1940, nous étions très, très affaiblis. Donc, François Mitterrand, pour moi, mérite d'être pris en considération parce que, d'abord, c'est mon expérience. Au départ, je ne le connaissais pas. J'avais adhéré au Parti Socialiste en 1964.
Vous dites que vous avez dû vous faire un peu violence, d'ailleurs, hein, parce que c'était Guy Mollet. Enfin,
je me suis fait violence, mais je pensais que stratégiquement, il fallait le faire pour faire l'union de la gauche, rénover le Parti Socialiste. Enfin, j'avais une idée quand même très construite de ce qu'il fallait faire. Et je n'ai découvert François Mitterrand qu'à l'occasion des présidentielles de 65. Ce n'est pas moi qui l'ai choisi. Ce sont les chefs du Parti Socialiste et du Parti Communiste, Valdecrochet. Mais... voilà, j'ai été inscrit au Parti Socialiste, donc je lui ai prêté ma plume pour faire des interviews, des petits papiers. Il ne me connaissait pas, d'ailleurs. C'est seulement en janvier 66 que je l'ai vu pour la première fois. Il a voulu remercier tous les petits grouillots là, qui lui avaient donné un coup de main. Ça ne m'a pas laissé un souvenir éblouissant. C'est après. Il m'a d'abord invité à déjeuner, puis quand j'ai eu écrit l'Énarchie avec quelques camarades, ça l'a beaucoup amusé, ça... nous a rendu sabbatique et il nous demandait de l'aider à faire ses interviews. Il était un peu seul. Il y avait Jacques Delors que nous croisions dans son antichambre, mais nous n'étions pas tout à fait sur la même ligne.
Non.
Donc, je répète qu'avec François Mitterrand, j'ai eu de graves désaccords. Hein, la guerre du Golfe, considérait que c'était une hérésie qui nous a conduit vers ce que nous avons vu par la suite, hein, c'est-à-dire Al-Qaïda, Daesh, et, voilà, après l'éclatement de l'Irak. Enfin, tout ça, c'était vraiment pas à faire. Et puis, quand j'ai lu le projet de traité de Maastricht, je me suis dit, je ne peux pas voter ça. C'était vraiment la fin de la souveraineté monétaire de la France.
Ça, c'est 91-92.
Je le lis au début de 92, parce que c'est très cloisonné, un gouvernement. Vous ne savez pas ce qui se passe ailleurs. Et je pourrais vous raconter longuement ce qu'a été l'acte unique, c'est-à-dire le traité de Luxembourg, dont on a tiré 300 directives. Dont l'une qui libère les mouvements de capitaux, non seulement à l'intérieur de l'Europe, mais vis-à-vis de l'extérieur. Alors, je suis le seul à avoir en Conseil des ministres protesté en disant « Mais vous allez créer une inégalité formidable entre le travail et le capital, d'autant qu'il n'y a pas d'harmonisation fiscale préalable. Vous y renoncez. » Et Bérégovoy, qui était à côté de moi, m'a dit « Tais-toi, c'est déjà arbitré ». Ce qui voulait dire que la discussion avait lieu en amont, que naturellement, lui, comme ministre, il devait être ministre de...
Eh ben, il était à l'économie et aux finances. Il allait remplacer. Il allait remplacer Edith Cresson. En
il avait viré sa cutie libérale.
Mais ça depuis 83.
Depuis 84, très oui, précisément. Voilà. Quand il est devenu ministre de l'économie et des finances, il a vraiment changé sa position. Mais si j'ai eu de graves désaccords politiques avec François Mitterrand, je ne lui en conserve pas moins amitié et affection. Et je dois vous dire que il m'a fait venir, parmi les rares qu'il souhaitait voir, peu de temps avant sa mort.
Rue Frédéric Leplay.
Rue Frédéric Leplay. Et j'ai été très ému par le spectacle que donnait François Mitterrand, que j'avais connu dans une espèce de majesté royale. Alors, il n'était pas toujours, comme je l'ai dit subtilement, il avait des rapports complexes avec la vérité.
Avec vous, on a eu l'impression, quand on regarde l'histoire du Parti Socialiste depuis 71, depuis le congrès d'Épinay, il joue alternativement l'alliance avec le CRS, l'aile gauche du parti, quand ça l'arrange, congrès de Metz en particulier, alors que, par exemple, au congrès de Pau, en 75,
Il vous met dans la minorité.
Il vous met dans la minorité.
Et puis, mais il nous retrouve au congrès de Metz, parce que pour rester en lice face à
Rocard,
il a besoin du CRS. Donc voilà.
Mais c'est-à-dire que vous, vous étiez, j'allais dire, évidemment complètement consentant de ces jeux tactiques.
Je ne voyais pas d'autre issue pour la gauche que l'élection de François Mitterrand. Il était son candidat depuis 65. Il avait accumulé un énorme capital de sympathie dans le populo, quoi, il faut bien le dire. Il a su s'en servir parce qu'il savait où il allait. C'était quand même un stratège, on peut le dire. Et un homme extrêmement secret.
Bon, on s'en est rendu compte un peu. Mais...
Alors, je pourrais vous raconter bien des choses. Mais il se livrait peu. Et il était un homme très attachant, très cultivé. Il pouvait être très dur. Il pouvait être... impitoyable. Il ne l'a pas été à mon égard, pas du tout, parce qu'il se souvenait de ce qu'il me devait. Et il y avait un certain attachement personnel qui existait de sa part et de la mienne aussi. Ce qui fait que, malgré nos désaccords, mais il savait bien d'où je venais et que mon parcours était rectiligne, donc il ne m'en voulait pas. Et il m'a dit un jour, c'était après le congrès de Rennes, en 1990, « Je sais que je peux compter sur votre loyauté globale.
Hein » Vous dites de la Franche-Comté, qui est votre pays d'origine, ça c'est très intéressant, c'est le pays de Fourier, de Courbet, on voit le grand tableau de Courbet, l'enterrement ornant, de Proudhon et d'Élippe. Je rappelle l'Élippe, hein, tout le monde sait, hein, Besançon, le paroissien de Palante, hein, voilà, Piaget, que c'était la patrie du socialisme utopique. On peut pas dire que votre sensibilité au sein du PS était utopique, à vous. C'est parce qu'il vient spontanément. Vous revendiquiez clairement votre qualité de marxiste, j'allais dire presque scientifique quand même. Hein. Et d'ailleurs, quand le CRS est fondé, il s'inscrit aussi dans la ligne de la SFIO, qui, dans les textes et dans ses analyses, beaucoup plus marxiste que ce que on aurait tendance à penser. Et la SFIO se revendique marxiste dans les années 50-60. Quel est l'apport du socialisme utopique dans la pensée socialiste, selon vous? Est-ce que ça a fondé quelque chose?
Alors, tout à l'heure, nous avons parlé du marché, de l'État. On aurait pu parler aussi de l'autogestion, de l'harmonie naturelle qui résulterait de l'association des hommes entre eux. C'était le rêve des communards qui pensaient que partout en France, on allait proclamer la commune et que tout le monde s'entendrait. Moi, je ne crois pas à ces équilibres naturels. Je pense...
Ça vous distingue de Mélenchon. Non, mais c'est une mauvaise blague.
Alors, Mélenchon, je pense que il est plus complexe qu'il n'y paraît. Il est plus complexe qu'il n'y paraît. Et,
il n'a jamais été CRS, d'ailleurs. Hein.
Il n'a jamais été CRS, non. Et même il a été assez hostile au CRS. Non. À l'époque du traité de Maastricht, il était trotskiste à l'origine, c'était rallié à Mitterrand, mais peu à peu, il a fini par comprendre et il a plutôt évolué dans la bonne direction, sauf qu'il n'a pas une claire vision, selon moi, hein, de ce qu'est la règle de l'État et de la nécessité de l'État. C'est ce que je regrette. Je ne dirais pas c'est ce que je lui reproche, je le constate. Et je le vois à travers les gens dont il s'entoure, qui ne me paraissent pas toujours des gens sur lesquels on peut réellement s'appuyer. Hein. Mais en même temps, Mélenchon a certains mérites. Je veux revenir sur le socialisme utopique. D'une certaine manière, j'ai forgé avec mes amis du CRS une utopie. C'était l'union de la gauche, alors que nous venions d'adhérer à la SFIO, ce n'était pas du tout évident. Il n'y avait même pas encore de programme commun. Il a fallu faire le congrès d'Épinay. Et c'est, je dirais, François Mitterrand, parce qu'il y était un peu contraint, il avait besoin de nous, qui a dit, eh bien, on va faire un programme commun avec les communistes, puisqu'on doit se présenter ensemble aux élections. Qui comprendrait que nous n'ayons pas un programme en commun ? Donc, il a roulé le congrès à sa manière. Il en est sorti victorieux d'extrême justesse, avec l'appui décisif de nos voix. Et ensuite, eh bien, il a taillé son chemin en me confiant le soin de rédiger les deux programmes du Parti Socialiste en 72 et en 1980. Je ne me définirai pas comme marxiste. D'ailleurs, vous ne trouverez pas cette revendication. Bien sûr, l'air du temps, dans les années 60, était plus ou moins marxiste. Mais tout le monde se disait marxiste. Hein. Il y avait ceux qui étaient maoïstes, hein, très loin de moi. Ceux qui étaient trotskistes, qui pensaient pouvoir se ressourcer dans une branche du léninisme, très loin de moi. D'ailleurs, ils étaient de diverses espèces. Il y avait ceux qui venaient de comment on appelait ça, la Ligue communiste révolutionnaire, et puis ceux qui venaient du lambertisme. Alors, c'était pas la même catégorie, ils ne s'aimaient pas entre eux. Et moi, je procédais plutôt d'un courant socialiste ancien, qui n'était pas le courant, je dirais, libéral ou social-libéral.
Un peu pivertiste. Hein.
Et je n'étais pas moi-même pivertiste.
Ah bon,
non.
Miforiste, donc.
Non, je me définissais plutôt par rapport au discours que Léon Blum avait prononcé au congrès de Tours.
D'accord.
J'aurais été
dès 1920.
J'aurais été un menchevique si j'avais été au Parti social-démocrate russe.
D'accord.
Et pas un bolchevique. J'aurais été dans la tradition socialiste classique. Alors peut-être que je me serais réclamé des analyses de Marx, parce que j'accepte les analyses que fait Marx. C'est-à-dire que je trouve que, comme sociologue ou comme historien, Marx est difficilement surpassable. Je ne crois pas beaucoup à son messianisme, ou plus exactement, je n'y crois pas du tout. Hein, on a décrit Marx comme le dernier des prophètes juifs. Hein, il y a cette idée du communisme. Bon, moi, ce n'est pas mon idée. Hein. Et il y a les analyses du Capital, qui sont des analyses économiques. J'ai un petit peu de la peine à appliquer les analyses du Capital au monde capitaliste réel. Peut-être que on peut comprendre certaines tendances, comme par exemple la tendance du capitalisme à la déflation, les mutations récentes du capitalisme, sa transformation d'un capitalisme dit fordiste en capitalisme financier,
qui est une de vos parties.
La dérégulation qui s'est produite avec Thatcher-Reagan dans les pays anglo-saxons, mais il faut bien le dire, en France et en Europe continentale, avec Delors, Mitterrand et Kohl, avec l'acte unique, avec la déréglementation à laquelle il a été procédé dans les années 80-90, qui fait qu'on est rentré dans un univers où il y avait pratiquement plus de contrôle, plus de droits de douane pour les produits, les services, la libre circulation des personnes, des capitaux, qui entraînait l'explosion de la formation de la chaîne de la valeur. C'est-à-dire qu'on avait des entreprises qui délocalisaient leur production dans les pays à bas coût, où même on finissait par ne plus s'y retrouver. Et c'est comme cela qu'on peut expliquer quand même la désindustrialisation qui a frappé notre pays. J'étais ministre de l'Industrie, j'ai démissionné en 83 parce que je n'acceptais pas qu'on accroche le franc aux marques, c'est-à-dire qu'on aille vers un franc surévalué qui nuirait à la compétitivité de l'industrie française. Et à quoi avons-nous assisté depuis, sinon à la lente érosion, à l'effilochage de notre tissu industriel qui représente aujourd'hui 10% de la valeur ajoutée contre 20% à l'époque. Donc moi j'ai démissionné à ce moment-là. Et J'ai ma lettre de démission figure, vous pouvez la lire dans le corps du livre, qui représente quand même 50 ans de d'écrits divers, d'expressions à la tribune de l'Assemblée, du Sénat, des interviews, etc.
Avec une vraie permanence. C'est...
Donc il y a une continuité dans ma pensée et dans mon expression que vous pourrez constater, parce que dès le départ, sur le conseil du Jean-Luc Barré, mon éditeur, j'ai publié quelque chose qui s'appelle Prologue, qui est une interview de Hamon et Rothman de 1985. Mais vous pourriez la reprendre aujourd'hui, il n'y a pas un mot à changer.
C'est quand vous êtes ministre de l'Éducation.
C'est voilà, tout à fait. Au début.
Il vous pose, c'est très intéressant parce que c'est à la suite de, on en dira un mot peut-être, c'est à la suite des événements qu'on a, ce qu'on a appelé la querelle scolaire qui a abouti à la démission d'Alain Savary et à votre arrivée rue de Grenelle. Et il y a une interview passionnante donc de Hamon et Rothman. Puisqu'on est un peu dans l'actualité. Évidemment, vous en avez dit un mot tout à l'heure à propos de François Mitterrand, qui vous avait repéré avec vos j'allais dire, vos petits camarades Didier Motchan et Alain Gomez.
Et Georges Sarr.
Et Georges Sarr.
Et Pierre Guidoni.
Oui, mais là, je parlais de Mandrin, hein, de Jacques Mandrin. Alors, je ne pense pas que Georges Sarr était co-auteur de L'énarchie ou les mandarins de la société bourgeoise. Ça, c'est le titre exact, en 67. Et vous publiez, d'ailleurs... un passage de ce livre, donc signé d'un pseudo collectif, Jacques Mandrin. On voit bien le clin d'œil. On lit cette phrase dans l'extrait de vous publier, Conquête de la résistance. L'école portait sans doute dès l'origine la marque d'une inspiration plus proche du despotisme éclairé que du socialisme. On parle bien de l'ENA. Hein. Qu'est-ce que vous pensez de la décision du président de la République? Clairement, est-ce qu'il faut supprimer l'ENA, hein, ou la remplacer par quelque chose d'autre, hein?
Il faut en tout cas supprimer la possibilité offerte à des jeunes gens qui ne connaissent rien, simplement qui ont réussi un concours, de choisir les grands corps de l'État, c'est-à-dire l'Inspection générale des finances, la Cour des comptes et le Conseil d'État, ce qui prédétermine leur carrière jusqu'à l'âge où ils prendront leur retraite.
Alors que vous êtes vous-même sorti dans la botte?
Non, je ne suis pas sorti dans la botte. J'étais très bien classé, mais les deux épreuves orales ont conduit à mon rang de classement à régresser suffisamment pour que je choisisse un autre corps, le corps de l'expansion économique à l'étranger, conseiller commercial.
D'accord.
J'ai d'ailleurs été quelque temps conseiller commercial à Jakarta.
D'accord. Donc, c'est plutôt la question des grands corps qui pose problème.
Pour moi, c'est le point essentiel. Parce que l'idée d'un recrutement par concours me paraît plutôt une bonne idée. Je préfère les concours à la lettre de recommandation. C'est d'ailleurs la commune qui a institué le principe des concours pour la fonction publique. Alors, il pourrait y avoir plusieurs concours. C'est peut-être possible.
Il y en a plusieurs. Il y a la externe, interne et la troisième voie.
Ah oui, alors, mais en même temps, ça conduit à la même école, l'ENA, à laquelle je reproche quand même... aujourd'hui, de conduire non seulement aux emplois élevés de la fonction publique, mais il y a beaucoup d'hommes politiques qui font l'ENA. Et maintenant, beaucoup plus grave encore, les dirigeants des grandes entreprises, jadis nationalisées, mais aujourd'hui privatisées, se recrutent également parmi les gens qui ont fait l'inspection des finances.
Et qui pantouflent, comme on dit.
Ils pantouflent, et ils pantouflent en multipliant leur salaire par 20, 30, etc. Je considère que avoir un tel monopole dans le recrutement des élites administratives, politiques et managériales dans un pays, c'est très mauvais. Il faut casser ça. Donc, dans l'énarchie, j'ai proposé une réforme. Dans une deuxième édition, j'ai proposé sa suppression. Mais la deuxième édition datait de 1980 peut-être. 40 ans ont passé, ou presque, je persiste. Je pense que c'est une bonne décision. Mais je me méfie de ce qui pourrait la remplacer. Si c'est pour recruter des gens à la sortie des business schools, je ne suis pas pour.
Alors ça va nous amener d'ailleurs un point essentiel, qui est un texte de la préface, de votre préface. J'aurais tendance, enfin, peut-être que vous allez me démentir, mais... j'aurais tendance à dire que peut-être que la phrase que vous avez prononcée et qui dit le mieux à la fois votre démarche politique et le fondement idéologique de celle-ci, c'est une phrase que vous avez prononcée à Vincennes le 9 septembre 2001. Alors vous allez tout de suite comprendre, ben, vous voyez à quoi je fais référence. Et il se trouve que l'histoire est là. Prononcer une phrase historique le 9 septembre 2001, c'est deux jours avant un événement qui va un peu faire passer, hélas, sous silence cette phrase, le 11 septembre, deux jours plus tard. Parce qu'il y a un chapitre où vous, d'ailleurs, vous parlez du 11 septembre. Cette phrase en question, c'est « Au-dessus de la gauche, au-dessus de la droite, telles qu'elles sont devenues, il y a la République », avec un R majuscule. Alors, il y a une petite coquetterie d'impression dans votre livre, c'est qu'il y a une partie qui s'appelle « La République et la Nation », mais comme c'est en capital, dans le titre, on n'arrive pas à savoir si, si vous avez mis des majuscules à « La République et à la Nation ». Alors, il faut aller dans le texte, et on constate que « La République », c'est avec un « R » majuscule, et « La Nation », c'est avec un « N » minuscule. Donc, comme il n'y a jamais de hasard, peut-être vous pourriez nous dire en quoi vous êtes un passionné de la République.
Alors, mon parcours est à gauche. Mes parents votaient plutôt à gauche. Ils ont voté gaulliste quelquefois, mais enfin, c'était quand même des instituteurs qui votaient à gauche. Et moi-même, je n'imaginais pas de... dans mon engagement politique, de me situer ailleurs qu'à gauche. Mon idole à 15 ans, c'était Mendès France. Ensuite, je me suis tourné vers De Gaulle au début de la guerre d'Algérie, parce que j'ai compris qu'il était seul capable de trancher le nœud gordien et d'éviter à la France une guerre civile qui a failli se produire. L'OS, c'était une guerre civile. Ça se passait plutôt de l'autre côté de la Méditerranée, mais c'était une guerre civile. Et nous aurions été emportés vers une guerre civile infiniment plus ravageuse si De Gaulle n'avait pas, en quelque sorte, pris les décisions qui s'imposaient, c'est-à-dire la reconnaissance de l'indépendance de l'Algérie. Alors, votre question était...
sur la République.
Sur la République. Pour moi, c'est un concept exigeant. Je n'entends pas par République... un régime politique où on vote, par exemple, ça me paraît tout à fait insuffisant.
Il y a des monarchies constitutionnelles.
Bien sûr. La République, c'est la chose publique. C'est ce que nous avons en commun. Et c'est l'intérêt général tel que nous en délibérons. C'est donc, je dirais, le produit du débat républicain, d'un débat organisé entre des citoyens dignes de ce nom. Et je pense qu'aujourd'hui, nous avons une vraie crise du civisme. Et je déplore qu'aujourd'hui, les Français ne s'entendent plus, ne se parlent plus, ne s'écoutent plus, n'argumentent plus entre eux et ne respectent plus le résultat des élections. Il faut quand même bien qu'il y ait un code, qu'il y ait une règle de conduite, quitte à remettre en cause le résultat de ces élections. Ça, on peut très bien être contre M. Macron, mais enfin, il est élu président de la République. C'est comme ça. Et puis après, il y en aura peut-être un autre. Mais il y aura des élections. Et ces élections, elles se préparent par un débat organisé. Donc, pour moi, la République est quelque chose d'exigeant. Et quand j'ai vu la gauche, il faut bien le dire, tourner le dos à ses promesses et faire une politique qui était, au fond, la politique de M. Barre, j'ai considéré que c'était quand même très difficile de m'identifier à cette gauche-là. Donc, j'ai quand même espérer peser de l'intérieur jusqu'à un certain moment, c'est-à-dire grosso modo jusqu'au traité de Maastricht. Et après le traité de Maastricht, j'avais pris part au débat sur le référendum en prônant le non. J'ai considéré que l'honnêteté consistait pour moi à quitter le Parti Socialiste.
Et c'est là avec, que vous fondez le
avec
mouvement
mes amis, on a créé le mouvement des citoyens qui entendait encore peser de l'extérieur, mais nous ne pouvions plus nous confondre avec un parti dont tous les fondamentaux avaient été, transformés. Et pour moi, l'idée républicaine était une idée beaucoup plus forte. Elle pouvait mobiliser des gens de gauche solides, sérieux, exigeants, mais aussi des gens de droite qui seraient allés au-dessus de clivages qui, par rapport aux engagements européens souscrits par la droite et par la gauche, rappelez-vous que M. Chirac et M. Giscard d'Estaing ont soutenu le traité de Maastricht, que l'acte unique, dit aussi traité de Luxembourg, a été voté sous la cohabitation, mais avec les socialistes. Et vous avez pu voir que, après le non au référendum de 2005, le traité de Lisbonne a été approuvé par le Congrès après un accord entre M. Sarkozy et M. Hollande. Donc il y a un moment où, très franchement, à gauche, oui, mais il ne faut pas nous prendre pour ce que nous ne sommes pas. Hein. Donc, je préfère me définir comme un républicain exigeant. Je n'ai rien renié de mon parcours, de mes idées, mais je ne veux pas me confondre avec des gens pour qui le mot gauche est tellement, je dirais, chargé d'ambivalence, d'ambiguïté, etc., que ça devient quelque chose qui relève du dol, de la tromperie, mais n'exprime plus une conviction sincère.
Alors, je ne pensais pas trouver dans vos textes des propos aussi durs contre le régime des partis. Vous dites même, dans les derniers mots de votre préface, vous parlez de la partitocratie, et vous dites même que le général de Gaulle, citation, en grand réaliste qu'il était, ait pu, au-delà de sa personne, vous pensez qu'il n'a jamais cultivé vraiment l'illusion qu'il arracherait la République au système ou au régime des partis. Vous avez quand même été un homme de parti, vous avez fait toute votre vie politique à l'intérieur d'un parti. Quand vous quittez le Parti Socialiste, vous allez me dire, j'ai créé un mouvement. Enfin bon, on est entre nous, votre mouvement c'était un parti aussi. Pourquoi est-ce que vous êtes si dur après, envers les partis?
Alors, si vous me lisez attentivement, et vous allez relire la préface ce soir, j'en suis certain,
oui.
Vous verrez que je différencie le régime des partis, ou le système des partis eux-mêmes. Je dis que les partis sont inévitables, parce que dans la démocratie, on a besoin qu'il y ait des partis qui permettent l'expression.
Mais la Constitution le dit d'ailleurs.
La Constitution le dit. Mais le système des partis ou le régime des partis que de Gaulle condamnait, c'était l'accaparement de l'État par un parti qui gérait l'État en fonction de ses intérêts de parti et non plus en fonction de l'intérêt national, de l'intérêt général, de l'intérêt public. Autrement dit, le système des partis, c'était ce que de Gaulle flétrissait sous la
soupe,
4e République, hein, la troisième force, hein, et ce que nous avons connu quand alternait une gauche et une droite qui, au fond, faisaient la même politique et qui, peu à peu, ont été rejetées par les électeurs. Parce que si vous regardez, par exemple, le nombre des abstentions, il n'a pas cessé de croître dans les 20 dernières années. Et en même temps, le nombre des électeurs qui votaient pour les partis extrémistes ou alternatifs n'a pas cessé d'augmenter. Ce qui fait que la part des partis dits de gouvernement s'est beaucoup réduite. Si vous prenez 2017, vous ajoutez 20% de M. Fillon, 6% de Hamon, ça fait 26%. Et à l'époque, M. Macron se disait un candidat contre le système, ce qui fait que j'hésite à ajouter les 24% aux 26%. Depuis, on l'a vu quand même assez clairement que La République En Marche était un parti de gouvernement, enfin, qui soutenait systématiquement, d'ailleurs, peut-être trop systématiquement, le gouvernement. Mais enfin, on a vu une certaine désaffection se manifester vis-à-vis de ce système que j'appelle partitocratie, pouvoir des partis, parce que les gens aspiraient à une politique, je dirais, plus audacieuse, plus courageuse, hein, visant l'intérêt général au-dessus des médiocres intérêts de parti.
Vous avez cru, vous le dites d'ailleurs, que Macron, au moins dans un premier temps, vous avez dit, il a fait turbuler le système. Vous employez ce mot. Vous avez pensé qu'il avait fait un peu de chamboule-tout dans le régime des partis.
Ah ben, incontestablement. Il a fait exploser à la fois la gauche et la droite. Hein, la gauche, aujourd'hui, est divisée en la France Insoumise, Monsieur Hamon, je ne sais plus comment ça s'appelle, Génération, le Parti Socialiste qui l'a même plus de candidat socialiste qui est M. Glucksmann. Et à droite, vous avez quand même des tensions très fortes entre M. Wauquiez, Mme Pécresse, M.
Et puis les anciens LR qui sont partis.
Et les anciens LR qui sont partis, qui ont rejoint
Agir,
M.
Édouard Philippe.
Édouard Philippe, etc. Donc c'est un univers explosé. Hein, Macron, il a fait exploser le système. Simplement, j'aurais voulu qu'il propose une alternative. Et je fais l'hypothèse que peut-être il sera capable de proposer une alternative en se ressourçant dans le logiciel républicain ou dans les idées qui étaient celles du gaullisme, celles du général de Gaulle, à l'origine, quand je dis du gaullisme, du général de Gaulle. Hein. Ou bien alors, simplement, il proposerait une sorte de coalition centriste entre bobos de gauche et centristes de droite, mais qui serait un nouvel avatar d'un gouvernement néolibéral que les Français ont quand même rejeté. Bon, j'ai écrit ça à la fin de l'an dernier, le mot « gilet jaune » n'y figure pas. Bon, alors, comment est-ce que les choses vont évoluer? L'art du gouvernement est difficile. Je ne suis pas là pour dire le contraire. Donc, on va voir comment les choses vont évoluer. Mais j'ai au moins esquissé deux hypothèses dans lesquelles chacun peut se retrouver. Hein, soit un ressourcement gaulliste, dont je suis partisan, soit une espèce de dérive néolibérale ou centriste, voilà, qui satisfera peut-être un temps les Français, mais à mon avis, pas toujours.
Alors, on va donner la parole à la salle dans 5 minutes. Il y a beaucoup de parties extrêmement passionnantes où on est vraiment dans la situation géopolitique. Vous abordez la question justement de l'islam, hein, des conséquences de ce que vous appelez la mer des batailles, on a dit, c'est-à-dire la première guerre du Golfe. Et d'ailleurs, là, vous, dans un texte qui est tout à fait étonnant, vous découvrez en 2010 que dès le 3 août 1990, ce que vous pensiez pas, François Mitterrand est attelé au tandem Bush-Thatcher pour intervenir en Irak.
Il a donné son accord par téléphone.
C'est Roland Dumas qui en témoigne bien plus tard.
Voilà, une brochure dont je donne les références.
Oui, tout à fait.
Et cette affaire-là, je la soupçonnais un peu, mais je n'osais pas le penser.
Parce que vous quittez le gouvernement le 28 janvier 91, c'est ça?
Je donne ma démission le 7 décembre par une lettre manuscrite que j'ai reproduite. Hein, et François Mitterrand me demande le temps de faire intervenir une médiation avec les Soviétiques ou les Algériens. Et comme je ne suis pas homme à lui mettre le couteau sous la gorge, je lui dis, écoutez, faites cette médiation, si vous pouvez éviter la guerre, je ne vais pas... Je souhaite que vous y parveniez, mais cette médiation n'a jamais eu lieu. En réalité, il y a eu... ça n'a pas d'intérêt. Hein. Donc, j'ai démissionné quand il a été clair que...
Parce que les premières interventions aériennes, c'est dans la nuit du 16 au 17 janvier.
Absolument, mais elles étaient limitées au territoire du Koweït.
Oui.
Par les instructions qui avaient été signées avec mon accord par le général Schmitt, qui était le chef d'état-major des armées. Ensuite, notre doctrine a évolué, on a commencé à bombarder l'Irak avec des risques de dommages collatéraux inévitables. Et j'ai pensé que j'avais fait plus que mon devoir et j'ai demandé à François Mitterrand d'être libéré de mes fonctions. Il m'a dit, vous n'allez pas partir dans la nuit comme Rocard. Alors je lui ai dit non, je ne vais pas partir dans la nuit, je partirai quand vous voulez. Quand est-ce que il faut que je me retourne? Je lui ai dit oui, il faut que vous me choisissiez un successeur. Alors, il a choisi Jox, il n'y avait probablement pas grand monde. Non, mais je ne dis pas ça contre Jox. Non, mais il fallait quand même quelqu'un qui puisse assurer, quoi. C'est ce que j'ai voulu dire. Non, je ne suis pas... Non, je n'ai pas voulu... Je n'ai pas voulu dire ce que vous avez cru comprendre.
On va terminer parce qu'il y a une phrase que vous citez. Vous citez Georges Pompidou à propos, c'est assez surprenant, à propos de la recherche. Parce que c'est un sujet qui vous a passionné, la question de la recherche. Quand vous aviez été, en 81, nommé ministre d'État, parmi les 5 ministres d'État qu'il y avait en 81, avec Defer, si je me souviens bien, Jobert, Rocard, et puis après Fitterman qui va vous rejoindre.
Et Nicole Questiot.
Et Nicole Questiot, qui était à la Solidarité. Vous êtes ministre de l'Industrie et de la Recherche. Et vous pilotez en particulier... à une séquence qui va s'appeler « Les assises de la recherche », qui est un moment tout à fait passionnant, 81-82. Et vous dites qu'il existait un organisme qui, sous le général de Gaulle, avait connu ce nom de gloire, la DGRST, délégation générale à la recherche scientifique et technique, de 58 à 69. Puis vous dites, après, c'était tombé en désuétude. Et vous dites, Georges Pompidou avait une formule, alors faut que je la reprenne, je peux vous la citer de mémoire. Georges Pompidou disait, il y a trois façons de perdre de l'argent. Le jeu, les femmes et la recherche. Le jeu, c'est la manière la plus rapide. Les femmes, c'est la plus agréable. Et la recherche, c'est la plus certaine, c'est ça?
C'est la plus sûre, oui.
La plus sûre, hein, voilà.
Absolument. Mais Pompidou a dit aussi quelque chose que je vais vous raconter, qui n'est pas dans le livre, mais qui est très profond. Lors de son dernier conseil des ministres, il a réuni ses ministres en leur disant, écoutez, voilà, c'est la dernière fois que nous nous voyons.
Mars 74.
Un murmure. Et il leur dit, voilà ce que je voudrais vous laisser comme souvenir. Si vous entreprenez de grandes choses, vous obtenez souvent des résultats moyens. Mais si vous entreprenez des choses moyennes, vous tombez forcément très bas. Alors, entreprenez de grandes choses. Et il a levé le Conseil des ministres. Et je trouve que cette réflexion, de la part d'un homme dont à l'époque rien ne me rapprochait, a une grande pertinence. Je pense qu'il faut se donner de grands objectifs dans la vie.
Moi,
je me suis donné un objectif qui était de mettre la gauche au pouvoir. Je suis arrivé, mais pas seulement. Je voulais que la gauche fasse quelque chose qui aille dans le sens des intérêts des couches populaires qui lui avaient fait confiance. Ça ne s'est pas passé comme ça parce que la gauche a épousé l'esprit du temps qui était le néolibéralisme. Je pensais qu'elle pouvait faire autre chose, qu'elle pouvait faire une conversion non pas libérale mais républicaine. C'est ce que j'ai proposé à la recherche, à l'industrie, sans succès. J'en ai tiré les conséquences, à l'éducation nationale où je suis revenu appelé par Mitterrand et je pensais que je pouvais le faire à la défense. Malheureusement, nous avons fait un gros accroc à notre doctrine qui est défensive, notre doctrine de la dissuasion, en nous mettant à la remorque des Américains et des Saoudiens dans une affaire qui, au fond, aurait pu ne pas dégénérer en guerre si nous avions joué un rôle de médiation. Je suis revenu ensuite, après avoir quitté le Parti socialiste, au ministère de l'Intérieur. J'y suis resté plus de 3 ans. Hein. C'est un ministère où le sentiment d'avoir fait quand même beaucoup de choses, mais c'est une autre affaire, on n'aura pas eu le temps d'en parler.
Peut-être que ça va venir dans la salle. Hein.
Mais ce que je voudrais laisser, c'est l'idée que une certaine rectitude en politique est nécessaire. Si on veut faire l'éducation des citoyens, si on veut non seulement agir pour le bien de la République, mais en même temps donner l'idée aux générations qui nous suivent que ça vaut la peine d'être républicain.
Je pense qu'on peut applaudir Jean-Pierre Chevènement, parce que d'abord, merci.